Voilà, bonsoir à tous, aux amis et aux amis potentiels. Philippe est la personne que nous allons honorer ce soir et il me revient le plaisir de parler de lui et de pouvoir présenter, je dirais, son travail. Alors c'est avec plaisir que je fais ça. Philippe et moi, nous nous connaissons depuis une grosse quinzaine d'années. Et du temps où il travaillait au Centre de Creative Leadership. Et nous nous rencontrions lors des congrès de ressources humaines où nous assistions mutuellement à l'atelier que donnait l'autre. Et puis nous avons commencé à parler. Et nous nous sommes rencontrés, je dirais, de façon plus sérieuse lors de la création de la Fédération internationale de coaching ici en Belgique, dont nous sommes les... Je dirais des pionniers, les premiers administrateurs. Nous avons donc travaillé aux fondamentaux du coaching ici en Belgique pendant plusieurs années. Et je dirais que lors de ma présidence, j'ai vraiment apprécié plusieurs choses chez lui, qui sont son professionnalisme, la façon juste qu'il a d'analyser et de dire les choses, et le ton neutre avec lequel il parvient toujours à parler et à se créer des amis sans se créer des ennemis, ce qui est un art qui est assez précieux de notre temps. Alors nous avons pratiqué le coaching comme Monsieur Jourdain pratiquait la prose, avant même que on ne parle de coaching en entreprise. Et c'est une notion qui est maintenant tout à fait connue et acceptée. Et Philippe est vraiment ce que j'appelle un des maîtres de notre métier, et particulièrement spécialisé dans ce qu'on appelle le coaching multiculturel. Mais le monde n'est-il pas uniquement multiculturel ? Donc je crois que c'est vraiment un sujet absolument fondamental, parce que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, on ne peut pas s'empêcher de travailler avec des gens qui pensent et agissent différemment de nous, sans même parler des différences culturelles. Les différences culturelles ajoutant évidemment à cela une composante de normalité qui fait que lorsque deux groupes différents et de cultures différentes ont des normalités différentes, ça n'est pas évident toujours de pouvoir travailler ensemble. Alors nous avons le plaisir de collaborer sur un projet international et où j'ai vraiment eu l'occasion de percevoir la justesse de ces outils, puisqu'un diagnostic a été fait dans des sociétés internationales qui devaient trouver un modus operandi commun, de voir comment ces gens allaient travailler alors qu'ils ont vraiment des façons de travailler et des styles de leadership très différents. Et les recommandations qui ont été faites ont été vraiment très éclairantes pour les comités de direction. Et nous commençons maintenant l'implantation du projet. Et c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec toi et avec ta sœur dans ce projet. Et ce qui me passionne, moi, c'est que c'est un travail intéressant intellectuellement. Il y a un sens réel qui est d'aider les gens à mieux travailler ensemble. On a pas mal de plaisir à travailler à trois et on gagne bien notre vie. Donc les quatre énergies sont réunies, le physique, l'intellectuel, l'émotionnel et le spirituel. Et je crois que ça fait partie des objectifs de notre métier, en tout cas pour nous. J'ai suivi la formation de Philippe afin de pouvoir maîtriser les outils. Et pour ceux d'entre vous qui sont coachs, je vous recommande vraiment de la suivre. Ce sont des outils que je trouve indispensables pour les coachs. Et ceux qui ne sont pas coachs, je les trouve éclairants. Certainement, si vous êtes manager, c'est intéressant de connaître les grilles de lecture qu'il nous propose. Je serais très curieux de voir... Je dévoile peut-être un petit secret, ce qui sortira dans son second livre qu'on espère avoir l'année prochaine, peut-être. Et donc, je vous laisse en compagnie de Philippe et je vous propose de l'accueillir comme il se doit. Philippe, je te respecte et je t'aime beaucoup.
Merci, Martin. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'être ici présent et vous souhaiter à tous la bienvenue. Je voudrais remercier Père Jean d'être ici avec moi. l'appréciation, l'amitié est réciproque. Et je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour dire que Pierre-Jean a aussi écrit un excellent livre qui se trouve là derrière, de « Quelle vie voulez-vous être le héros ?» Donc son livre se trouve là et je le recommande également. Et je voudrais remercier Filigrane aussi de soutenir le livre et de nous accueillir ici aujourd'hui. Ce que je voudrais vous proposer, c'est, dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble, enfin ce sera peut-être plus que quelques minutes, c'est de d'abord planter le décor et ensuite rapidement d'avoir un échange avec vous plutôt que d'être dans un exposé ex cathedra, de planter le décor et puis de répondre à vos questions, et peut-être d'avoir un dialogue avec vous, si ça vous convient comme ça. Voilà. Et je dois aussi, je sais qu'on a un public assez varié, il y a des personnes parmi vous qui ont une expérience de coaching, il y en a d'autres pour qui c'est très nouveau, donc je vais essayer de m'adresser à tous en même temps et de commencer par quelques bases. Donc en disant mon parcours, quelques mots sur mon parcours. J'ai commencé ma carrière en fait comme ingénieur civil, mes études, et puis j'étais à Stanford aux États-Unis où j'ai continué mes études d'ingénieur. Et rapidement, j'ai travaillé dans la Silicon Valley comme ingénieur. Et ensuite, je suis revenu en Belgique, toujours ingénieur et manager. Et assez rapidement, c'était dans les années 80, je me suis rendu compte que souvent, le potentiel humain est sous-utilisé. C'est dommage pour les personnes qui travaillent en entreprise et dans les organisations de manière générale. C'est aussi dommage pour les personnes, pour les organisations et pour la société en général. Et je me suis posé la question, comment éviter cette fatalité? Comment, au contraire, faire en sorte que les gens puissent mieux utiliser leur potentiel, chacun, que les organisations puissent mieux tirer parti de ce potentiel humain? Et cette question m'a finalement amené à changer radicalement ma carrière. À l'époque, j'avais suivi, et j'ai le plaisir de retrouver Henri ici, qui a fait le CEPAC avec moi, c'était il y a déjà presque 20 ans, des cours de business où j'ai appris des choses intéressantes en finance, marketing, ressources humaines, mais sans vraiment avoir la réponse à cette question, comment mieux utiliser le potentiel humain. Et c'est là que j'ai commencé à travailler comme... ça a été un parcours de développement personnel, j'ai suivi des séminaires, et puis je me suis mis, après un certain temps, à faire ce que Pierre-Jean décrivait, un peu comme Monsieur Jourdain, à faire du coaching, sans savoir que ce que je faisais, c'était du coaching. L'idée du coaching, peut-être pour résumer très simplement, c'est que plutôt que de partir d'un cursus et d'une théorie, d'un modèle, et de faire une formation où on va expliquer aux personnes une théorie, charge à ces personnes d'appliquer cela. Dans le coaching, on part des défis des personnes, et le coaching consiste en un accompagnement de ces personnes, que ce soit des individus ou des équipes, dans la durée, et on les aide à relever leurs défis, mais plutôt que de simplement être là pour leur donner des solutions, on agit surtout comme facilitateur, on aide les personnes à trouver elles-mêmes des solutions, à puiser dans leur richesse intérieure, dans leur sagesse. Et ça, on le fait, quelque part, c'est très simple, ce qui fait que beaucoup de personnes se lancent dans le coaching en disant « c'est très simple le coaching, il suffit d'écouter, de poser quelques questions ». Et c'est vrai qu'à la base, c'est ça le coaching, de l'écoute et des questions. Mais encore faut-il poser les bonnes questions et ensuite avoir cette attitude de non-jugement, de bienveillance qui permet aux personnes d'être en contact avec ce qu'elles désirent vraiment, d'être au clair avec leurs objectifs et ensuite de les accompagner dans la durée pour les aider à atteindre ces objectifs. J'ai travaillé comme coach pendant plusieurs années et puis j'ai eu l'occasion de travailler pour une société internationale et là je me suis rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été écrites sur le sujet et qui venaient principalement des États-Unis. Donc le coaching provenant des États-Unis avec deux bases, en fait. D'une part, je dirais, pour simplifier dans le coaching, le bon sens. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes qui se disent « je vais être coach, ah, ça m'intéresse, j'ai aucune formation, mais je vais être coach parce que j'ai du bon sens et je vais aider d'autres personnes à mieux manager leur temps, à mieux communiquer en utilisant mon bon sens. » Ça, c'est une base importante. Une autre base, c'est la psychologie comportementale, intelligence émotionnelle. Ce qui manquait, me semble-t-il, c'est la dimension culturelle. C'était comme si le coaching en provenance des États-Unis pouvait s'appliquer de manière universelle. Or, dans le coaching made in USA, il y a une série de croyances, de valeurs, de normes qui ne s'appliquent pas forcément universellement. Je vais donner un exemple. Nous sommes tous les deux membres de l'International Coach Federation, qui est la plus grande association de coachs. et qui est une excellente association et qui propose un certain nombre de compétences de base standard du coach. Et une de ces compétences, c'est de pouvoir communiquer de manière directe. On dit les choses de manière claire, franche, et on se dit que ça, c'est une bonne façon d'être un coach, parce qu'il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'omission, les choses sont claires sur la table. J'ai eu l'occasion maintenant, je suis également professeur maintenant au Japon, dans une business school au Japon. Je dois dire que si on utilise cette approche directe, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que là, on risque de heurter les personnes et de casser la communication, tout simplement. Donc voilà un simple exemple qui montre que croire que la communication directe, c'est une panacée, c'est universel, c'est sans doute une erreur. Donc la démarche que j'ai commencé à entreprendre, voilà, environ une dizaine d'années, c'est de dire comment intégrer la dimension culturelle de manière systématique dans le coaching, avec deux objectifs. D'une part, c'est d'aider les personnes à travailler au travers de cultures différentes, mais plus fondamentalement, il s'agit vraiment d'aider les personnes à trouver de nouvelles pistes de progrès, à aller au-delà de leurs croyances, de nos valeurs, quand celles-ci nous piègent. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a une façon de travailler, on a une façon de vivre qui peut fonctionner, mais parfois qui peut nous amener à sans cesse rencontrer les mêmes défis. Que fait-on dans ce cas? Si en tant que coach, j'ai ces mêmes valeurs et je n'ai pas un recul par rapport à la réalité, je vais sans doute rater les opportunités de trouver de nouvelles pistes de progrès. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, la façon de gérer, on voit beaucoup de gens en entreprise qui sont débordés, les personnes n'ont jamais le temps de faire tout ce qu'elles ont à faire. En tant que coach, je peux aider les personnes à devenir encore plus productives, encore mieux utiliser leur temps, encore faire plus de choses dans le temps qu'elles ont. Donc ça, c'est une bonne idée de pouvoir aider les gens à être plus efficients. Mais le problème, c'est que paradoxalement, en aidant ces personnes à être encore plus efficientes, je risque de renforcer l'idée que la vie, c'est comme un tapis roulant qui se déroule à grande vitesse et on est pris dans une frénésie d'activité, on devient de plus en plus productif, mais sans prendre le temps. Alors, coaching interculturel, l'idée, c'est d'ouvrir de nouvelles pistes, en l'occurrence, de dire le temps ne doit pas être forcément rare, le temps peut aussi être compris comme quelque chose d'abondant. Et si on considère que le temps est abondant, du coup, on va ralentir, on va prendre le temps. Et c'est paradoxalement en prenant le temps qu'on peut davantage savourer le temps et apprécier sa rareté. C'est en ralentissant, Winston Churchill avait dit une fois, il était dans une situation de crise, et plutôt que de répondre à l'urgence, il avait dit « d'abord, je vais faire une sieste, d'abord, je vais prendre le temps, me reposer, comme ça, j'ai un recul, et je vais sans doute alors prendre une meilleure décision ». Voilà un exemple. L'idée du coaching interculturel, c'est d'ouvrir de nouvelles pistes pour une série d'activités qui sont importantes et fondamentales, que ce soit la manière de gérer le temps, que ce soit la façon de s'organiser, la façon de penser, la façon de communiquer. Souvent, nous avons nos préférences et nous ne sommes même pas conscients que nous avons ces préférences. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir d'autres pistes. Et l'objectif, alors, c'est de permettre de déployer davantage de potentiel humain, puisque le but du coaching, c'est d'aider à déployer du potentiel humain pour atteindre des objectifs importants et significatifs. L'idée, c'est de considérer la culture, non pas simplement comme un obstacle, mais comme une réelle opportunité de trouver de nouvelles pistes de progrès en dehors des sentiers battus. Donc ça, c'est l'idée du coaching interculturel. Donc, je voudrais préciser que ce n'est pas un coaching qui est uniquement destiné aux personnes qui travailleraient dans une multinationale, dans un environnement international. Non, ça s'adresse, je pense, à chacun, parce que tous, même localement, on est dans un monde en mutation, un monde complexe. Nous faisons face à des défis de plus en plus complexes et il y a intérêt à ne se priver d'aucune opportunité de progrès. Voilà la philosophie. Je voudrais préciser aussi que coaching, quand je parle de coach, je parle de plusieurs choses. D'abord, je parle de coach professionnel. Certains parmi nous ici sont des coachs professionnels. Mais je dirais plus fondamentalement, je m'adresse aussi aux managers, aux leaders, dont un des rôles, parmi d'autres, ce n'est pas le seul rôle, mais un des rôles, c'est d'être des coachs, c'est de pouvoir aider à déployer le potentiel humain dans leurs équipes, dans leur organisation. Et donc ça, c'est un rôle important et de plus en plus reconnu du manager. Mais au-delà même des managers, des coachs, je pense que ça s'adresse à toute personne. Ça peut être des enseignants, des médecins, des kinésithérapeutes, qui, plutôt que d'être là simplement à dire « voilà ce qu'il faut faire, je donne des recettes, je donne des trucs, ou je donne des consignes simplement », je vais être aussi dans une approche de questionnement et d'aider l'autre personne, que ce soit le patient, que ce soit l'élève, que ce soit l'employé, à devenir davantage autonome, responsable, et à apprendre à trouver en lui ou en elle les ressources pour aller de l'avant et pour mener la vie la plus authentique possible, c'est-à-dire une vie de plus en plus en conformité avec ce qui est important pour il ou elle. Voilà, en quelques mots, planter le décor, je voudrais encore dire quand même deux, trois mots sur la notion de culture, parce que souvent aussi, là, il y a des incompréhensions sur ce que culture veut dire. Et peut-être, j'ai envie de vous poser la question, là, on n'a peut-être pas, je ne sais pas si vous avez un micro, on n'a qu'un micro, mais je vais quand même vous poser la question, si je dis culture, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Tu veux bien?
Est-ce que quelqu'un a une idée? J'amène le micro.
Pas tous en même temps.
Qui a envie de dire ce qu'il pense être de la culture? Henri, un petit mot? Ou quelqu'un d'autre?
Il n'y a pas qu'une réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas que d'une réponse.
Oui.
J'essaie d'abord, peut-être je ne trouvais pas toujours les mots justes, mais pour moi, culture, c'est les valeurs et les mots de vivre qui influencent ce qu'on fait et comment on communique avec les personnes autour de nous et comment on décide.
Ouais. Merci.
Ça me plaît.
Ça te plaît? Est-ce que quelqu'un a un complément ou une autre idée? Voilà.
On va pour cette définition alors. Alors il n'y a pas qu'une façon de définir, mais je suis aussi assez d'accord. Je propose la définition suivante. C'est, pour moi, la culture, c'est les caractéristiques d'un groupe qui distinguent ce groupe d'un autre groupe. Et vous remarquez que dans cette définition, ce qui est important pour moi, c'est que c'est un phénomène de groupe. Et le groupe, il peut être plusieurs choses. Ça peut être une nation, ça peut être une profession, ça peut être une génération, ça peut être un genre, ça peut être une entreprise. Et même dans l'entreprise, chaque département peut avoir sa culture. Je dis ça parce que souvent, dans la littérature interculturelle, il y avait l'idée que l'accent était surtout mis sur les pays. Et on va comparer, les Français sont comme ça, les Américains sont comme ça, les Chinois sont comme ça. Je pense que toutes ces recherches sont très intéressantes, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Une façon de... Il y a un autre concept qui est intéressant, c'est le concept d'identité. Pour moi, l'identité, c'est la synthèse de nos cultures, la synthèse dynamique de nos cultures. Nous avons tous plusieurs cultures, et nos comportements vont probablement varier en fonction des contextes. Si je pourrais, par exemple, m'adresser à vous en disant que je suis désolé, je suis vraiment peu qualifié pour parler devant une audience aussi relevée et je vous prie d'être très gentil à mon égard, vu mon inexpérience. Si je parle comme ça, quelle serait votre réaction? Le pauvre. On est bien tombé. Les gens vont se dire, ce gars-là, il manque d'assurance, manque d'assertivité et ce sera un bon candidat pour le coaching. Il a vraiment besoin de coaching. Mais il se peut que ça, ce serait vrai si on regardait la réalité uniquement sous un angle psychologique. Mais peut-être, si on voit les choses sous un angle culturel, ce comportement, peut-être qu'ici, il n'est pas adéquat, mais dans un autre pays, peut-être qu'il serait tout à fait approprié. On peut avoir tous une personnalité, une psychologie, mais on a l'habitude de se comporter différemment en fonction des contextes. Parfois, avec certains de mes amis, on va se taquiner d'une façon qui serait adéquate dans ce contexte-là, mais tout à fait inappropriée dans un contexte professionnel. Je suis la même personne, je me comporte différemment dans différents contextes. Ça semble tellement évident, et pourtant, dans le coaching traditionnel, cette réalité n'était pas prise en compte. Alors, donc l'idée, c'est que la culture, c'est quelque chose de dynamique aussi. Ça, je vais encore insister sur cette notion. Mais d'abord, je voudrais dire, quand on parle de caractéristiques, on parle de plusieurs choses aussi. Il y a les caractéristiques externes. Et souvent, quand on voit la littérature interculturelle, l'accent a été mis justement sur ces aspects externes. On va dire que les Belges aiment bien manger des frites avec de la mayonnaise. Et voilà, ça, c'est la culture belge. Quand on va en Allemagne, les gens roulent rapidement. Si on va en Asie, sur les autoroutes, en Asie, il faut remettre sa carte de visite en utilisant deux mains. Avec le micro, ça va être difficile de montrer le geste. Mais souvent, et vous voyez des livres qui vont mettre l'accent sur toute une série de trucs quand vous allez dans un pays, de conseils. Tout ça est important, mais ça reste à un niveau superficiel. Ce qui, je pense, est intéressant, c'est d'aller un peu plus en profondeur, voir ce qu'il y a en dessous, dans la partie immergée de l'iceberg. Et là, il y a des normes, des valeurs et des croyances. Je vais dire quelques mots pour illustrer mon propos. Normes, c'est qu'est-ce qui est approprié et inapproprié. Quand on parle du coaching, est-ce que coacher par téléphone, Pierre-Jean me parlait d'une émission de partager ça de télévision, on dit c'est même pas le téléphone, mais c'est le SMS, on va coacher par SMS. Est-ce que c'est approprié ou inapproprié? Dans certaines cultures, ce serait sans doute inapproprié, peut-être dans certaines cultures, manifestement, c'est approprié. Valeur. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour un groupe donné. Ça peut être le profit, la part de marché, la persévérance, le travail comme valeur. Et le rôle du coach, ce n'est pas de porter un jugement sur ces valeurs, mais plutôt de prendre une position de recul, c'est de dire, est-ce que ces valeurs sont intéressantes, sont efficaces pour la personne ou non? Est-ce que ça aide la personne? Et une même valeur peut être efficace dans un contexte et inefficace dans un autre contexte. Je vais donner un exemple, la paresse, par exemple. Alors le mot, quand j'ai écrit le livre en anglais, mes éditeurs n'ont pas voulu accepter ce mot. Ils ont insisté pour que, à la place de dire paresse, j'écrive la valeur de faire le moins possible. Parce que le mot paresse, même pour un éditeur qui s'appelle Intercultural Press, c'était un petit peu exagéré de suggérer que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Et pourtant, en France, il y a des philosophes qui écrivent sur le thème de la paresse, et en faisant même l'éloge de la paresse. Pour quelqu'un, alors on peut dire pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de résultats et qui ne travaille pas beaucoup, ça ne va sans doute pas être très efficace d'encourager la personne à être encore plus paresseuse. Mais pour quelqu'un qui travaille dur, qui est sur le point d'avoir un burn-out, la paresse peut être une valeur tout à fait intéressante à considérer. La paresse peut inviter la personne à s'arrêter, à se reposer davantage, et donc cette même valeur peut devenir intéressante. Donc le rôle du coach est de suspendre le jugement et d'aider la personne à faire le point, est-ce que c'est efficace ou pas. Si on va plus en profondeur encore, il y a cette notion de croyance fondamentale. Je vais vous donner un exemple. Notre relation à l'environnement, est-ce que nous sommes vraiment en charge? Est-ce que le pouvoir est en nous? C'est une croyance d'immanence. Ou est-ce que le pouvoir est à l'extérieur de nous? Si je crois que le pouvoir est en moi, comme c'est souvent le cas dans la culture américaine, je ne vais pas faire de stéréotypes, mais par exemple, Anthony Robbins, que vous connaissez peut-être, avait écrit un livre, Unlimited Power, pouvoir illimité. Et il suggère que nous avons vraiment un pouvoir illimité et que si nous travaillons dur, nous persévérons, on peut accomplir n'importe quoi, vraiment. On peut atteindre des résultats incroyables. Ça, c'est une croyance fantastique parce qu'elle pousse les gens à mettre des efforts en œuvre et parfois atteindre un succès au-delà de toute expérience.